enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Depuis que nous avons commencé l'école de la prière, nous avons eu des moments de bénédiction, de révélation très très puissants et très importants. Depuis le premier jour de l'école, nous avons parlé de la puissance de la prière, et nous avons parlé aussi de la prière de combat, nous avons aussi parlé de la prière d'enfantement. C'est bizarre comment lorsqu'on parle de prière d'enfantement, beaucoup de personnes pensent que c'est la prière que doivent faire les femmes qui veulent donner naissance aux enfants. Hier, c'est pas par rapport à toi, hein. Parce que hier en fait, je parlais avec un technicien en informatique qui est en Côte d'Ivoire, et je lui dis, il me demandait sur quoi vous avez enseigné hier, et je lui disais sur la prière d'enfantement. Et il me dit, ah oui, mais c'est un sujet qui est très important parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont stériles. Je dis, mais ce message-là, effectivement, a à voir avec les personnes stériles, mais pas seulement les femmes, parce que il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont stériles. Quand je dis stériles, c'est que ces personnes n'arrivent pas à réaliser quelque chose. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, la stérilité n'est pas seulement sur le plan physique et naturel. Ça peut être également une stérilité financière, une stérilité spirituelle. Quand quelqu'un, par exemple, démarre un ministère, une église, et qu'après 5 ans de ministère, il a toujours 4 fidèles, c'est une forme de stérilité. Est-ce que vous me suivez? Quand quelqu'un démarre une entreprise et que 10 ans plus tard, cette entreprise-là n'a pas progressé, c'est une forme de stérilité. Et effectivement, dans le corps de Christ, il y a des femmes qui sont stériles. Ce n'est pas la volonté de Dieu, puisque vous le voyez clairement dans le livre de la Genèse, lorsqu'il parle de bénédiction, il dit « Multipliez, soyez féconds. Multipliez, soyez féconds. » Et quand vous voyez encore Jésus, lorsqu'il nous parle dans le livre de Jean, chapitre 15, il dit « Portez du fruit. » Et il dit « C'est lorsque vous portez beaucoup de fruits que mon Père est glorifié. » Donc, dans la volonté de Dieu, il n'a jamais été question que nous soyons improductifs, que ce soit sur le plan des enfants, ou sur le plan des réalisations, ou sur le plan des activités. C'est pas forcément sur le plan ministériel. Mais Dieu veut que nous puissions entreprendre des choses et voir ces choses-là s'établir et se développer. C'est comme ça que l'Église aussi va pouvoir s'imposer. C'est comme ça que l'Église va pouvoir étendre ses limites. Aujourd'hui, aux États-Unis, l'Évangile a quand même beaucoup d'avance par rapport aux autres pays occidentaux. C'est vrai qu'il fut un temps où l'Allemagne a connu un très grand réveil. Il fut un temps où en Suisse également, il y a eu un très grand réveil évangélique. En Allemagne, le réveil a tellement été important que jusqu'à aujourd'hui, lorsque vous appartenez à une église, vous pouvez faire un document qui fait de telle sorte que l'État prélève automatiquement la dîme sur votre salaire et le vire à votre église. Quand vous déclarez, par exemple, que vous êtes évangélique de telle communauté, la dîme est prélevée par l'État jusqu'à aujourd'hui en Allemagne. Pour vous dire que ces pays ont connu l'Évangile. Et même en France, il y a eu un grand réveil. Mais ces réveils-là ont difficilement été entretenus. Pourquoi? Parce que les gens ont eu l'impression que la meilleure manière de servir le réveil, c'était d'arrêter toutes ces activités et de se consacrer seulement à la prière. C'est vrai qu'on parle de prière, mais on ne prie pas pour se coucher et dormir. On prie pour pouvoir se lever et agir. Alléluia. Et lorsqu'il y a un mouvement de prière qui se fait, lorsque vous priez, que ce soit une prière d'enfantement, une prière de combat ou une prière de foi, vous priez et ce qui doit suivre après la prière, c'est l'action, c'est l'acte. Et non être une église qui passe son temps à chanter, à danser, à prier, parce que quand vous avez fini de semer et que vous avez arrosé et que le fruit et que l'arbre est sorti qui porte du fruit, il faut que vous alliez jusqu'à faire quoi? Jusqu'à récolter ce fruit-là et dire voilà les fruits que j'ai pu produire. Aujourd'hui, l'église doit avancer. L'église doit se développer. Je ne peux pas aussi, en ce jour anniversaire du 11 septembre, commencer mon enseignement sans vous parler aussi de cette guerre que fait les nations islamiques contre tout ce qui est chrétien. Ne soyez pas surpris que ce soit effectivement l'Amérique qui soit frappée ou bien qui soit l'épicentre du combat de l'extrémisme islamique contre le monde occidental. Je vous ai dit que moi-même j'ai été musulman à un moment. Pas musulman de naissance, mais musulman de conversion, de choix. Donc j'ai étudié l'islam avant qu'on me baptise donc dans l'islam. Il fallait que je connaisse beaucoup de choses par rapport à l'islam. Et une chose que je sais, c'est que dans l'islam, on vous enseigne que tous ceux qui ne sont pas musulmans sont comme des animaux. Parce qu'ils n'ont pas d'âme. Et que vous pouvez les tuer s'ils refusent de se convertir à l'islam. Oui. On vous enseigne à avoir la haine de tout ce qui est chrétien. Parce qu'il y a un très gros amalgame qui se fait entre catholicisme et christianisme. Pour eux, tous ceux qui sont chrétiens sont catholiques. Et tous ceux qui ne sont pas musulmans, de toutes les façons, sont chrétiens. Et donc, ce sont les chrétiens qui s'adonnent à l'alcool, à la drogue, à la prostitution, à ces choses-là. Quoique dans l'islam, ce sont des choses aussi qui sont très répandues, mais qui sont cachées. Et donc, il faut abattre le chrétien. Il faut faire le combat. Et le Seigneur l'a dit dans les prophéties, il a dit, un royaume s'élèvera contre un autre royaume. Donc, nous n'avons pas pour adversaire que l'esprit qui se cache derrière l'extrémisme islamique. Mais nous avons pour adversaire même beaucoup de personnes et beaucoup de mouvements religieux, y compris ceux qui se disent occidentaux, mais qui ne reconnaissent pas Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Donc nous avons énormément d'adversaires. Nous sommes entourés d'adversaires et nous sommes attaqués de toutes parts. On essaie de nous museler, on essaie de nous empêcher de nous exprimer, on essaie de nous empêcher de partager notre foi. Aujourd'hui, dans un pays qui jadis fut chrétien, il est quasiment interdit d'aller faire du prosélytisme religieux, c'est-à-dire d'aller aborder quelqu'un dans la rue ou bien chez lui et lui parler de Jésus. Il peut avoir des recours contre vous. Vous savez que dans les pays musulmans, il est fortement interdit même de se promener avec une Bible. Mais par contre, ici, ils le font. Ils font du prosélytisme, mais de manière arrangée. Tout le monde le sait. Mais par contre, l'église évangélique, de plus en plus, voit ses libertés restreintes. Et le Seigneur n'est pas surpris par ces choses, parce qu'il nous avait avertis. Il nous avait dit que les temps allaient devenir de plus en plus difficiles. Si je vous dis aujourd'hui que les temps seront faciles, je serai en train de vous tromper. Parce que les temps seront de plus en plus difficiles. Il sera de plus en plus difficile de vivre votre foi. Il vous sera de plus en plus difficile de marcher en conformité avec la parole de Dieu et de réussir dans ce monde. Parce que nous ne sommes pas du monde, mais nous vivons dans le monde. Mais le Seigneur savait que nous allions vivre dans le monde. Et donc, il a pourvu à des moyens pour nous de communiquer avec lui. Il ne nous a pas abandonnés, il ne nous a pas laissés seuls. ni sans ressources ou sans moyens de communiquer avec lui. Il nous a donné des moyens de communiquer avec lui et de continuer à recevoir de lui des instructions, des directions, des inspirations, de la force, de l'onction et même des bénédictions. Toutes ces choses-là, nous pouvons les recevoir. Vous savez, il n'y a rien de pire pour un soldat lorsqu'il est au combat que d'être sans moyen de communication. Lorsque un soldat est sur le champ de bataille, il a besoin de pouvoir communiquer avec le PC, c'est-à-dire le poste de commandement. Parce que c'est du poste de commandement que toutes les directives sont données. Il peut ne pas savoir que, à 2 mètres de lui, se trouve, par exemple, un blindé. Il peut ne pas savoir que, dans 5 minutes, la zone dans laquelle il se trouve sera bombardée par ses propres alliés. Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes en guerre. Et donc, un combattant qui n'a pas de moyen de communiquer avec le PC, il a plus de chances même de se faire tuer par ses propres compagnons que par l'ennemi. Est-ce que vous comprenez? La situation devient dangereuse pour lui dans la mesure où il ne peut plus se diriger, il ne peut plus s'orienter, il ne peut plus se déplacer, il ne peut pratiquement rien faire. La seule chose que ce combattant-là a comme priorité, c'est de rejoindre le plus rapidement le PC ou bien de trouver un moyen de communiquer. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu, nous ne sommes pas du monde, mais nous vivons dans le monde. Et nous sommes dans un terrain hostile. Parce que la Bible dit que le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence des hommes. Et donc nous sommes dans un terrain hostile. Et si nous voulons pouvoir nous déplacer, être efficaces, produire pour le royaume, faire des choses grandes à la gloire de Dieu, il est important que nous ayons un moyen de communication qui nous permette de recevoir du ciel. Si ce moyen de communication est pour une raison ou une autre alterné, aujourd'hui ou altéré, aujourd'hui, il faut que ce moyen de communication soit rétabli au nom de Jésus. Malheureusement, beaucoup de personnes fonctionnent sur la terre, mais ça fait longtemps qu'ils n'ont pas reçu de direction, de directive ou bien de message venant du ciel. C'est pour ça que Dieu nous a donné la prière. Amen. Et il nous a indiqué plusieurs sortes de prières. Dans Actes chapitre 2, verset 42, par exemple, Actes chapitre 2, verset 42, la Bible dit, dans l'église primitive, les frères persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Dans les prières. Ils n'ont pas dit dans la prière, mais bien dans les prières. Pour dire qu'il n'y avait pas une seule sorte de prière qui était faite, qui était prononcée ou bien qui était donnée lorsque les frères de l'église primitive se réunissaient. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, Éphésiens 6, 18. La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Toutes sortes de prières. Donc, ce verset-là encore nous montre qu'il y a différentes sortes de prière. Et dans 1 Timothée chapitre 2 verset 1, la Bible dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Donc il nous cite quelques sortes de prières, mais il dit avant toute chose, je vous exhorte donc à faire des prières. Donc il y a plusieurs sortes de prières. Vous me direz, depuis le début de l'école, on a déjà parler de ça, on a déjà dit qu'on allait étudier plusieurs sortes de prières, mais pourquoi revenir dessus? Tout simplement parce que il est important que cette vérité soit ancrée dans votre esprit. qu'il y a plusieurs situations que nous allons traverser. Et face à chacune de ces situations-là, il y a un genre de prière qui est approprié. Ces prières doivent être utilisées pour différents besoins, différentes circonstances et différentes situations. Et une des prières qui nous permet de recevoir de Dieu, qui nous permet de pouvoir voir Dieu se manifester directement dans notre vie, c'est la prière de foi. Amen. Il a dit, demandez et l'on vous donnera. Donc, la prière de foi. La prière de foi. Dis à ton voisin, la prière de foi. Tu dois connaître donc les lois spirituelles qui régissent cette sorte de prière. En ne faisant pas l'erreur de croire que toutes les règles qui régissent ces prières sont pareilles. En parlant de la prière de foi, nous allons voir donc les caractéristiques de la prière de foi. Première caractéristique, la prière de foi, c'est demander au Père au nom de Jésus. Lorsqu'on fait une prière de foi, on s'adresse au Père, au nom de Jésus, et pas au nom de quelqu'un d'autre. Vous comprenez facilement ce que je veux dire. Jean chapitre 16, verset 24, 23 à 24 nous dit ceci. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Amen. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Donc c'est au Père qu'on demande au nom de Jésus. Et il nous le donnera. Maintenant, il continue en disant, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Il est important que tu comprennes. C'est vrai, dans l'évangile, le mot Trinité n'apparaît pas. Mais il y a trois personnes distinctes avec qui nous avons des rapports. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et lorsque tu t'approches de Dieu ou lorsque tu veux communiquer et lorsque tu veux prier parce que tu as un besoin, tu veux recevoir quelque chose, il faut que tu t'adresses à la bonne personne. Tu peux parler au Seigneur Jésus. Tu peux communiquer avec lui. Tu peux lui dire combien tu l'aimes. Mais quand il s'agit de demander, il faut que ta prière s'adresse au Père. Est-ce que tu me comprends? Je ne dis pas que Jésus, le nom de Jésus n'est pas puissant. Je ne dis pas que le Seigneur Jésus n'est pas puissant. Mais il y a, dans toute organisation, différentes personnes qui jouent différents rôles et qui ont la responsabilité de faire différentes choses. Et en ce qui concerne l'organisation du ciel, qui ne sera pas désorganisée à cause de toi, est-ce que tu me comprends? C'est pas toi qui vas dire comment le ciel doit fonctionner. En ce qui concerne l'organisation du ciel, toutes les lettres de requête et toutes les prières sont adressées au nom de Dieu le Père. Amen. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme quand vous écrivez dans une entreprise. Les lettres que vous envoyez, les lettres que vous faites à l'entreprise sont souvent au nom du directeur général ou du président directeur général. Bien que vous savez que ce n'est pas lui qui va traiter votre dossier. Est-ce que vous me comprenez? Même quand vous parlez, par exemple, au directeur des ressources humaines, il vous dit, envoyez un courrier, ou bien à la secrétaire, envoyez un courrier au directeur général. Et maintenant, le courrier est épluché et il va dans le service qui est concerné. Est-ce que vous me comprenez? Pour ça que lorsque vous priez, vous ne priez pas comme soi-disant, parce qu'il est important. Nous avons, pour beaucoup d'entre nous, hérité de traditions catholiques, hein, je le dis. On ne prie pas un saint particulier qui serait le patron des maçons, ou bien celui qui restaure les couples, ou bien ce genre de choses. C'est pas toi qui a établi au ciel cette organisation-là. Peut-être que ça a été vrai à un moment. Hein. Peut-être. Mais dans un service, hein, on peut affecter quelqu'un à un autre poste ou à une autre responsabilité. Et ça, vraiment, je le dis vraiment comme ça, parce que ça m'étonnerait que l'Éternel des armées ait transféré l'organigramme du fonctionnement du ciel à qui que ce soit ou à quelque organisation que ce soit sur terre. Amen. Marie, la mère de Jésus, lorsque elle donnait des recommandations aux gens, le jour du mariage à Cana, elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Et c'est lui qui nous a dit de faire ça. Jean, chapitre 16, versets 23 à 24. En vérité, je vous le dis. Quand le Seigneur dit en vérité, je vous le dis, c'est que c'est une parole qui revêt un caractère encore plus autoritaire. Parce que le premier en vérité, c'est le Père. Le deuxième en vérité, c'est le Saint-Esprit. Je vous le dis, c'est lui-même. Ça veut dire le Père, le Saint-Esprit et le Fils ont parlé. Est-ce que vous comprenez? C'est une vérité qui est établie. Quand il dit en vérité, je vous le dis, c'est pas pour faire beau. C'est pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Même si on ne dit pas Trinité, mais il parle au nom de la Trinité. En vérité le Père, en vérité le Saint-Esprit, je vous le dis le Fils. Alléluia. Donc ça veut dire que c'est une vérité qui est établie, qu'on ne peut pas changer ni modifier et qui est établie au siècle des siècles. Les choses ne vont pas changer. Je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Donc c'est pas au nom de quelqu'un d'autre. C'est au nom de Jésus. Deuxième caractéristique de la prière de foi, c'est que la prière de foi, c'est faire une demande en accord avec la volonté de Dieu. Ne croyez pas que on puisse bouger les montagnes par notre propre volonté. Il faut, pour pouvoir dégager de la foi, être en accord avec la parole de Dieu. Il y a des gens qui pensent que ils peuvent utiliser la prière de foi pour faire plusieurs choses. Moi, je vous donne un exemple quelque chose qui m'est arrivé. Quelqu'un qui est venu me voir. Ah oui, homme de Dieu, je voudrais que tu pries. Bon, moi, j'aime souvent savoir pourquoi je prie. Cela va de soi. Non, je veux que tu pries pour que le frère tel divorce de sa femme pour venir m'épouser. Je dis, mais... Non, je vous dis la vérité. C'est pas une fable. Cette femme-là a fait énormément de dégâts en Côte d'Ivoire. Parce que la personne qu'elle voulait épouser, qui était aussi un amant officieux, était un homme d'autorité. Quelqu'un qui avait une très très grande fortune. Et vous savez, quelqu'un qui est fortuné et un chrétien de surcroît, qui a bâti une église, s'il vous plaît. Donc, quand ça arrive à ce stade-là, et que la personne arrive à avoir 3 pasteurs, 4 pasteurs, qui sont dans son entourage, et qui lui disent que non, tu vas voir, Dieu va faire. Il va divorcer avec sa femme. Il va t'épouser. Je me demande si on prend les hommes de Dieu pour des marabouts. Parce que si c'est ce genre de prière-là que tu veux, mieux vaut aller voir les marabouts. Est-ce que vous comprenez? Ah non, je vous dis ça, c'est vrai, ça vous choque. Mais c'est pour réveiller quelque chose en vous. On ne prie pas à l'encontre de la volonté de Dieu. Amen. On ne prie pas à l'encontre de la volonté de Dieu. La meilleure manière de s'assurer que notre prière de foi va avoir de l'impact et va avoir effectivement de l'efficacité, c'est que cette prière de foi est faite en accord avec la volonté de Dieu. Tu ne peux pas prier, je vous dis un autre exemple, c'est fort, moi-même ça me fait beaucoup de peine, mais mieux vaut dénoncer ces choses-là. Ça donne honte au diable, mais bon, faut pas que ça tombe trop aussi dans les oreilles des païens parce que ils utilisent ça pour se moquer de nous. Un homme de Dieu bien reconnu, bon ministère, qui s'est retiré pendant 7 jours avec sa maîtresse, jeûne et prière, pour prier pour que sa femme meure. Mon frère, même si tu fais 40 jours de jeûne et prière, même si tu fais... Mais le comble, c'est que lorsqu'ils sont sortis de l'endroit où ils se sont retirés pour aller jeûner et prier, dès qu'ils sont sortis, ils ont fait un accident. Vous imaginez un peu les aberrations et les abominations qui peuvent se faire. Venant de personnes qui sont averties, venant de personnes qui connaissent la parole de Dieu, venant de personnes qui même qui enseignent la parole de Dieu. On peut arriver à un stade où on a l'impression que c'est tout ce qu'on demande que Dieu nous donne. Mais Dieu ne nous donne pas tout ce qu'on demande. Amen. Il nous donne ce qui est bon pour nous. Et il a dit qu'il fait concourir toutes choses en notre bien. Donc si aujourd'hui tu as prié pour une maison et que tu n'as pas eu la maison, au moment où tu as demandé cette maison, c'est pas le moment de te fâcher contre Dieu, de te fâcher contre l'église, de te fâcher contre l'homme de Dieu qui a prié pour toi ou bien qui a prié avec toi en disant oui, Dieu ne m'a pas écouté. Non, tu ne sais pas ce qu'il y a dans cette maison et ce qui peut se produire dans cette maison. Tu ne sais pas ce qui a été enfoui dans cette maison et tu ne sais pas qu'est-ce qui va se produire ou bien qui va se passer pour toi lorsque tu vivras dans cette maison. Si tu n'as pas eu cette maison, c'est que certainement le Seigneur a prévu quelque chose d'autre pour toi. Demande la direction de Dieu. Amen. Vous avez par exemple des femmes qui prient pour un homme, oui, il faut qu'il me marie, il faut qu'il me marie, il faut qu'il me marie. Mais à un moment, ça devient même maladif. Elle ne veut rien entendre, ça devient une obsession. Mais tu ne sais pas ce que ce frère-là va produire dans ta vie. Tu ne sais pas si ça sera la pire chose qui puisse t'arriver. Tu ne sais pas si cet homme-là ne va pas mettre fin à ton ministère. Donc si tu as prié et que... Parce que normalement, avant même de prier, tu dois chercher à savoir si c'est la volonté de Dieu. Or, c'est ce moment-là qu'on veut précipiter. On dit, ma soeur, est-ce que c'est la volonté? Oui, c'est la volonté de Dieu. Parce que c'est toi ta volonté. Je te dis, mais quand je le vois, j'ai des frissons comme ça. Je sens même l'onction. Mon frère, même dans le monde. Et quand une femme a le coup de foudre, elle va sentir des sensations. Ça ne veut pas forcément dire que c'est la volonté de Dieu. Est-ce que tu me suis? C'est pas les sensations qui font que c'est la volonté de Dieu. J'ai envie de l'appeler. Alors, quand j'entends sa voix, je sens la paix de Dieu en même temps. Mais ce genre de discours-là, tu dis ça aujourd'hui, mais demain tu risques de dire autre chose. La première des choses, c'est est-ce la volonté de Dieu? Amen. C'est ça le discernement. Exercer le discernement, c'est pouvoir faire la distinction entre sa propre volonté, entre ce que le diable veut nous faire faire, et entre la volonté et la volonté de Dieu. Vous savez, des fois, quelque chose même peut être la volonté de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas encore le temps de Dieu. Oh my God. C'est la volonté de Dieu, mais ce n'est pas encore le temps de Dieu. Parce que l'ennemi a fait plusieurs dégâts dans la vie de certaines personnes, tout simplement parce que ils sont allés avant le temps. Avant le temps. Le diable veut te pousser à faire la chose avant que le moment n'arrive. Regardez, lorsque même le Christ, le Seigneur Jésus, est allé jeûner dans le désert pendant 40 jours, 40 nuits, le jour, le temps de couper son jeûne était arrivé. Et maintenant, le diable vient se présenter et dit, mais, puisque la Bible dit, il eut faim. Pour ceux qui savent ce que c'est qu'un jeûne long, tu sais que lorsque tu te lances dans ce genre de jeûne-là, à partir de 27 jours, 28 jours, jusqu'à 40, 42, 5, même 50, il y a une période qui arrive où la faim, parce qu'à partir du 10e jour, tu n'as plus faim. Et il y a une période qui arrive où la faim revient. Quand la faim revient, tu as quelques heures pour manger. Parce que si tu ne manges pas à ces moments-là, ça peut être très dangereux sur le plan physique. Et donc, il savait, puisque la Bible dit, il eut faim. Et c'est là maintenant que le diable arrive pour lui dire, mais ordonne à ces pierres-là de devenir du pain, tu vas manger. Amen. Mais le Seigneur a su que ce n'était pas le temps. Le diable veut te faire faire des choses avant le temps. avoir des rapports sexuels avant le mariage, avoir certaines bénédictions avant que le moment ne soit arrivé. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dévastateur. Est-ce que tu me suis? Donc la prière de foi, c'est faire une demande en accord avec la volonté de Dieu. On ne peut pas faire une prière de foi lorsqu'on ne connaît pas la volonté de Dieu, déjà. Donc avant de dire, je vais faire une prière de foi, il faut déjà savoir quelle est la volonté de Dieu. Amen. C'est important. Les chrétiens n'aiment pas qu'on leur dise ça, mais quelle est la volonté de Dieu dans cette situation? Et la volonté de Dieu, on la connaît très facilement. La volonté de Dieu, elle est dans la parole de Dieu. Voilà. Elle est dans la parole de Dieu. Donc, si c'est la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu, tu peux la connaître de plusieurs manières. Tu peux avoir un verset qui va te donner l'indication. Tu peux avoir une inspiration, une parole de connaissance. En parlant de frères aussi, ou bien de sœurs, non, c'est la volonté de Dieu, je l'ai vu en songe. Le fait de voir aussi en songe, je ne sais pas pourquoi, quand les gens sont païens, ils font des rêves, quand ils sont des chrétiens, ils font des songes. On dirait que les chrétiens ou les chrétiennes ne font plus de rêves. Ça peut être un rêve. Donc ça peut être quelque chose que tu as vu pendant ton sommeil, mais qui n'a pas forcément une valeur de direction. Donc il faut aussi exercer le discernement par rapport à ce que tu as vu dans ton rêve ou dans ton songe. C'est très important. 1 Jean chapitre 5 verset 14 nous dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Nous avons auprès de lui donc cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, si on prie selon sa volonté, Dieu nous écoute. Maintenant, je ne veux pas aussi vous dire que quand une situation est difficile, ça veut dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que j'ai dit. La situation peut être difficile. Ça peut être, même que ce soit dans le cadre du mariage, ou d'une entreprise, ou bien d'un local que tu veux acheter, ou bien d'une maison que tu veux acheter, il peut y avoir des résistances, il peut y avoir des blocages. Ça ne veut pas dire parce qu'il y a des blocages que ce n'est pas la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, la prière de foi va décanter cette situation. Amen. Mais avant de prier, il est important d'avoir ce qu'on appelle la conviction. Et une conviction qui n'est pas basée sur les sensations ou les sentiments, mais une conviction qui est basée sur ce qu'on appelle la foi, qui est quoi? Une ferme assurance. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il faut arriver donc à expérimenter ça, la conviction. Savoir quand c'est la conviction et quand c'est tout simplement la convoitise. On ne prie pas basé sur la convoitise, mais on prie basé sur la conviction. Je suis convaincu que Dieu veut que j'aie cette maison. Et donc, tu pries en conséquent. Et la Bible dit que si tu pries en accord avec la volonté de Dieu, alors tu peux être sûr qu'il t'écoute. Et s'il t'écoute, c'est que tu es exaucé. Parce que plusieurs personnes peuvent prier par rapport à la même maison. Maintenant, ça dépend de celui que Dieu va écouter. Si la Bible dit que si tu pries en accord avec sa volonté, il t'écoute. Ça veut dire aussi que dans certains cas, il peut ne pas t'écouter. Dès que tu commences à prendre une direction qui est contraire à sa volonté, il éteint, switch off, il n'écoute plus. Mais quand tu pries en accord avec sa volonté, alors il t'écoute. Tous tes arguments, tout ce que tu dis, tes supplications, tes intercessions, tout ce que tu réclames et toutes ces choses-là, il les écoute et il te répond. La prière de foi, c'est croire qu'on reçoit quand on demande. Je dis bien, c'est quoi qu'on reçoit quand on demande, au moment où on demande. C'est pas quoi qu'on va recevoir quand on a demandé. Les gens qui disent, mais il dit la même chose. Il y a une nuance. Celui qui fait la prière de foi croit qu'il reçoit quand il demande. C'est-à-dire, il reçoit au moment où il prie. Il a la conviction que je reçois pendant que je suis en train de demander. Alors que celui qui ne fait pas la prière de foi, c'est-à-dire, il y a une très petite nuance, hein, il prie, mais il croit qu'il va recevoir après avoir demandé. C'est deux choses différentes. J'ai demandé, donc je vais recevoir. L'espérance, c'est demain. La foi, c'est aujourd'hui. Quand tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Oui. Je sais que s'il veut, il peut me guérir. Cette personne-là a de l'espérance, mais n'a pas la foi. Quand tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Oui, je crois qu'il peut me guérir. Maintenant, cette personne-là a la foi. Est-ce que vous me suivez? J'espère que... Est-ce que vous me suivez? C'est une conviction qui est basée sur... C'est-à-dire, on a cette conviction-là qu'au moment où nous sommes en train de parler, où nous sommes en train de prier, la prière est en train de s'accomplir. Pas qu'elle va s'accomplir, elle est en train de s'accomplir. Je vais vous demander quelque chose. Qui a déjà commandé un article sur Internet ou bien dans un catalogue? Ou bien au téléphone? Tu as déjà passé une commande sur Internet ou bien... sur un téléphone ou bien sur un catalogue. Pratiquement tout le monde. À quel moment est-ce que tu crois que la commande est passée? Au moment où tu reçois le produit ou au moment où tu passes la commande? C'est au moment où tu passes la commande. Dès que tu raccroches, tu es sûr que tu vas recevoir ton produit. Est-ce que après deux jours, tu appelles la société pour leur demander où est le produit que tu as commandé? Est-ce que tu le fais après une semaine? Si tu n'as pas reçu, mais après quand même un long moment, tu te donnes quand même un temps considérable, tu te dis que, ah vraiment, je comprends pas, depuis, ça fait longtemps, j'ai pas reçu mon truc. Mais donc, il y a des personnes qui font plus confiance au magasin 3 Suisses, ou bien la Redoute, qu'au ciel. Parce que la prière de foi... C'est le même processus pratiquement. C'est-à-dire que lorsque tu fais une prière de foi et que tu pries, au moment où tu fais ta prière de foi, tu crois véritablement que ce que tu as demandé est accompli et que ce n'est qu'une question de temps pour que tu le reçoives. La transaction est faite, c'est déjà fait. Même si tu reçois le produit quelques jours plus tard, la transaction est déjà faite. Moi, j'ai passé des commandes, déjà, sur Internet, ou bien, honnêtement, dès que vous avez cliqué sur le bouton et que vous recevez la confirmation qui dit, votre carte a été débitée, ou bien la transaction a été acceptée, tu ne vas plus rappeler encore l'entreprise pour repasser une autre commande dans les 30 minutes qui suivent. Jamais! Parce que sinon, tu risques de te ruiner, tu vas faire débiter ta carte au moins 50 fois. Une fois sur mon site, il y a quelqu'un qui a passé la commande d'un CD de délivrance. Elle a commandé une première fois. Ensuite, elle a recommandé au moins 4 fois d'affilée. On m'envoie le rapport donc des commandes sur le net et je vois le nom de la même personne qui revient 4 fois avec 2 minutes d'intervalle. 2 minutes d'intervalle pour le même produit. J'ai dit, bon, rappelez la dame. On a fait rappeler la dame. Lui a dit, madame, vous vouliez commander une fois ou deux fois ou trois fois ou quatre. Ah non, je n'étais pas sûr si ça marchait ou si ça marchait pas. Donc à chaque fois, je cliquais. Même quand vous avez cliqué et que vous ne recevez pas de réponse, vous ne repassez pas la commande 2 minutes plus tard. Vous attendez d'abord de recevoir soit une acceptation ou bien un refus avant de procéder encore à une autre commande. C'est pour ça que lorsque vous faites une prière de foi, il est important de recevoir ce qu'on appelle la conviction que vous avez été entendu et que vous avez été exaucé. Je ne parle pas de toutes les sortes de prières. Il y a plusieurs sortes de prières. On va étudier plusieurs sortes de prières. Même en matière de demande, il y a la prière de foi, il y a la prière de requête. Mais je parle aujourd'hui de la prière de foi. Lorsque tu fais une prière de foi, tu ne reviens pas 50 fois sur le même sujet. Une fois que tu as fini de faire la prière, pour toi, l'affaire est réglée. C'est réglé. Tu as la conviction que c'est réglé. Et donc, tu dois faire une prière de qualité, de telle sorte que, à la fin de la prière, tu sois convaincu que tu es exaucé. Et ça s'arrête là. Maintenant, tu es sûr que dans quelques jours, tu vas recevoir dans ta boîte aux lettres la réponse à la transaction que tu as faite. La prière de foi reçoit par la foi et ensuite elle voit la matérialisation. On va lire d'abord même Matthieu chapitre 21, versets 21 à 22. Matthieu chapitre 21. Encore en parlant du figuier stérile, je vais lire à partir du verset 18. La Bible dit ceci. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi, et à l'instant le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Mais il dit avant ça, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, donc il dit, vous avez de la foi, vous ne doutiez point. Vous aviez de la foi, vous ne doutiez point. Vous avez de la foi, vous ne doutez pas. Donc lorsque tu as la foi, tu ne doutes pas. Tu ne doutes pas que ce que tu as demandé va s'accomplir. Parce que la foi c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsque tu passes ta commande, tu ne vois pas la chose que tu ne la touches pas, tu ne la vois pas, mais tu sais que tu l'as commandée. Et tu sais que dans quelques jours, cette chose-là va se matérialiser. Amen. Et donc, tu as la foi dans tout le système que les choses se feront de telle sorte que ce que tu as demandé puisse se produire. De la même manière, lorsque tu fais une prière de foi, il faut que tu sois animé de la conviction que ce que tu as demandé, pas va s'accomplir, mais s'accomplit. Ou est en train de s'accomplir. Amen. Ça se développe. Je vous ai dit qu'on grandit dans la foi. À certaines personnes, le Seigneur a dit, oh, que ta foi est grande. À d'autres personnes, il a dit, oh, homme de peu de foi. Donc, on grandit dans la foi. La foi se développe. Ce n'est pas dès le moment où tu vas commencer à pratiquer la prière de foi que tu vas voir les résultats instantanés. Mais au fur et à mesure que tu exerces ta foi, au fur et à mesure que tu fais une prière de foi et que quelques jours plus tard, tu vois l'exaucement, tu fais une autre prière de foi. Quand je dis que tu vois l'exaucement quelques jours plus tard, c'est pas que tu as la foi que la chose va se produire dans quelques jours. Tu as la foi que la chose s'est produite. Maintenant, c'est dans quelques jours que la matérialisation se fera. Et quand bien même on te demande, avant la matérialisation, est-ce que tu crois que tu vas recevoir? Tu dis, mais j'ai déjà reçu. C'est pas est-ce que je crois que je vais recevoir. J'ai reçu. Alléluia. Je sais que je l'ai reçu. J'ai déjà reçu. Je possède déjà cette chose-là. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Et le Seigneur nous dit ceci, nous fait cette promesse. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Une autre caractéristique de la prière de foi, c'est que la prière de foi reçoit par la foi et ensuite, elle voit la matérialisation, c'est Marc chapitre 11, verset 24. Marc chapitre 11, verset 24. La Bible nous dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc vous voyez que vous devez croire avant de voir et non voir avant de croire. tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Tu sais, quand tu crois que tu as reçu quelque chose, tout ton comportement change. Ton attitude change. Même ta manière d'être change. Lorsque tu as prié Dieu et que tu crois que tu as reçu ce pour lequel tu as prié, tu ne vas pas revenir encore 30 minutes plus tard pour dire, Hé Seigneur, vraiment. Tu dis, par exemple, tu fais une prière de foi. Tu crois que Dieu veut que tu travailles. Tu crois que c'est la volonté de Dieu que tu travailles, par exemple, dans telle entreprise ou bien dans tel secteur d'activité. Tu as déposé tes dossiers, tes diplômes et tout. Et maintenant, Dieu te donne, par exemple, 2 semaines ou 3 semaines pour bien te reposer, pour bien t'édifier spirituellement, pour que lorsque l'entreprise va te rappeler ou bien t'appelle, tu ailles étant déjà vraiment en bonne forme et spirituelle et physique et tout ça. Mais ces 3 semaines-là d'attente, tu peux les gâcher en te plaignant et en pleurant. Chaque matin, tu te réveilles. Seigneur, vraiment, le travail que j'ai demandé là, je vais avoir ça quand? Vraiment, depuis là, les gens ne m'appellent pas. Seigneur. Tu vois, tu es en train de te soucier et de te faire du souci pour quelque chose qui est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que tu aies une activité qui te permette d'avoir des revenus. Ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui a la foi. Parce que c'est l'attitude de quelqu'un qui doute, qui pense que Dieu peut changer d'avis et vouloir qu'il soit dans des difficultés financières ou bien dans des problèmes. Et je vais vous dire que les gens qui s'agitent, la plupart du temps, ne reçoivent pas de Dieu. La foi va faire de telle sorte que lorsque tu auras fini de prier, mais pour toi, c'est quelque chose qui est déjà réglé. C'est déjà réglé. Tu ne vas plus revenir dessus nuit et jour, matin, soir, midi, la nuit, tu te réveilles. Vraiment. C'est ce genre de choses-là, tu penses que ça te rend spirituel. Mais en réalité, ça ne fait que t'affaiblir parce que l'homme spirituel, c'est celui qui a la foi. La Bible dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc ce n'est pas agréable, ce que tu fais n'est pas agréable. Les choses qui sont agréables à Dieu, ce sont les choses qui sont poussées et qui sont suscitées par la foi. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Dieu aime les gens qui ont la foi. Pourquoi? Parce que la foi, c'est croire que ce que Dieu a dit s'accomplit. Est-ce que toi, tu aimes être dans la présence de quelqu'un qui doute de tout ce que tu lui dis? Tu dis, écoute, demain, la dernière fois, je suis allé dans tel endroit, j'ai acheté des chemises, demain, je te la porte. Ah, tu es sûr? Tu es sûr que tu vas me donner la chemise? Je te dis que oui. Est-ce que tu m'as pas demandé? Je te dis que je vais t'apporter une chemise. D'accord. Ok, j'ai compris. 30 minutes plus tard, la chemise que tu as dit que tu vas envoyer là, tu es sûr que tu vas envoyer? Je t'ai dit que je vais te donner la chemise. Il n'y a pas de problème. Ok. Il est là, il pense à quelque chose d'autre. Après, il te tape. Il dit, la chemise là. Tu es sûr? Tu dis, ok, il n'y a pas de problème. Vous finissez de discuter. Que Dieu te bénisse. Il rentre chez lui à la maison. Il est en route dans le métro. Il appelle sur son cellulaire. Trrr, ton téléphone sonne. Allô? Oui, c'est moi. C'est pour te dire, la chemise là, demain, il ne faut pas oublier, hein? Tu dis, mais il n'y a pas de problème. Je t'ai dit que je vais te donner. Tu rentres à la maison, minuit, 1h du matin, où ton sommeil vraiment est tout, le téléphone sonne. Qui est au bout du fil, le frère à qui tu as promis la chemise? Allô, oui, c'est moi. Excuse-moi de te déranger, hein. Tu dormais. Je voulais pas te réveiller. C'est simplement pour te rappeler la chemise. Il y a des gens qui sont comme ça, n'est-ce pas? Mais ce genre de relation-là, est-ce que c'est agréable? C'est pas du tout agréable. Et finalement, tu commences même par regretter de lui avoir promis de lui donner une chemise. Tu risques même de lui dire, si tu appelles à 2h du matin, bon, oublie la chemise, mais je te donne plus, voilà. Parce que tu voulais lui faire plaisir, mais tu te rends compte que le fait de vouloir lui faire plaisir, ça te crée des problèmes. Amen. Donc, c'est la même chose, mon frère. Dieu aime les personnes qui ont la foi. Et une personne qui a la foi, c'est une personne qui, lorsqu'elle sait que Dieu a entendu sa prière et qu'il a répondu à sa prière, il n'a plus besoin de revenir et de revenir et de re-revenir et de re-revenir encore. Alléluia. Il sait que sa prière est exaucée. Tout est une question de temps. Pas de temps pour que ce soit exaucé, mais de temps pour que l'exaucement se matérialise. Dis à ton voisin, aie la foi. Donc, la prière de foi, c'est demander sans douter. Jacques chapitre 1, versets 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc, il dit, si quelqu'un manque de sagesse, mais il n'y a pas que la sagesse que tu peux demander à Dieu. Pourquoi est-ce qu'il parle, il dit sagesse? Pourquoi si quelqu'un manque de sagesse? Parce que la sagesse, c'est la capacité de comprendre. La sagesse répond à la question comment. Donc, si quelqu'un manque de sagesse, ça veut dire qu'il cherche à comprendre. S'il la demande à Dieu, donc c'est une bonne chose. Dieu veut que tu aies de la sagesse. Donc, si quelqu'un demande de la sagesse à Dieu, verset 5, qui donne à tous simplement sans reproche. Donc, Dieu donne à tous simplement sans reproche. Donc, il ne te fera pas de reproche que tu cherches à avoir les éléments qui te permettront de mieux faire. Il dit donc, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Qu'il la demande avec foi, sans douter. Dis à ton frère, demande avec foi. Sans douter. Vous voyez, souvent, lorsque le Seigneur parle de foi, il dit, si quelqu'un a la foi et qu'il ne doute pas, ou bien si quelqu'un la demande avec foi, sans douter. Donc, en quelque sorte, le fait de douter, donc de n'être pas sûr du résultat, est un peu comme, c'est de l'incrédulité. Et l'illustre très bien ici, il dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Il est semblable au flot de la mer, agité par le vent, et poussé de côté à d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Quelqu'un qui doute, qu'il ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Amen. Qu'il ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Tu ne dois pas douter. Et la prière de foi, c'est ça. La prière de foi ne doute pas. Quand Jésus disait à Lazare, sors, il était sûr que Lazare allait sortir. Il n'y avait pas Lazare. Bon, si tu peux, sors, hein. Ça allait être un problème. Et après, il attend un peu, il voit que, bon, Lazare ne bouge pas. Il dit, Lazare, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Ça va? Bon, si tu peux, sors, hein? Non. Lazare, sors. Je ne cherche pas à savoir quelle est la situation, qu'est-ce que tu traverses, quel est le problème que tu as, ça fait combien de temps que tu es mort, tout ça, c'est pas mon problème. La seule chose que je veux, c'est que tu sortes. Alléluia. Et je crois que tu vas sortir, parce que je crois que c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Et c'est cette conviction-là qui te pousse à faire des prières audacieuses. Et des prières de foi. Une prière que tu libères, mais au moment où tu libères cette prière-là, tu as la conviction que ce que tu as demandé est accompli. Amen. C'est accompli. C'est accompli. La prière de foi peut marcher pour les autres. C'est-à-dire que c'est le genre de prière qui marche, qui peut marcher pour toi et qui peut marcher pour les autres. La prière de foi. Tu peux, par exemple, si un frère ou une sœur, généralement, c'est sur la base de cette prière-là qu'on exerce le ministère. Quand des personnes viennent te voir, homme de Dieu, est-ce que tu peux prier pour moi? Normalement, c'est pas est-ce que tu peux prier pour moi, mais c'est est-ce que tu peux prier avec moi? Parce que la prière de foi agit, premièrement, pour tes besoins, pour tes désirs, pour les choses qui te concernent. Quand tu fais la prière de foi, généralement, d'abord, c'est pour toi. Premièrement, c'est pour toi. Ce que tu veux, ce que tu, les choses qui te concernent, ton travail, ta maison. Bon, Seigneur, je veux tu pries pour ta maison, tu pries pour ta santé, tu as mal à la jambe par exemple, tu imposes la main, tu dis au nom de Jésus, je commande à cette jambe-là de bien se porter, Seigneur, bénis-moi, donne-moi une santé et tout au nom de Jésus, tout ça. Bon, tu fais tes prières de foi et c'est comme ça en fait que tu te développes. Amen. Premièrement. Mais à un certain moment, il peut arriver que quelqu'un vienne vers toi et te demande de prier. Amen. Maintenant, lorsque tu pries avec cette personne, tu ne pries pas pour tes désirs, tu ne pries pas pour ta volonté, tu ne pries pas pour tes besoins là maintenant. Tu pries pour les désirs, la volonté et les besoins de la personne qui vient vers toi. Amen. Donc comme je l'ai dit en commençant l'enseignement, ne te mets pas à prier avant de savoir quel est son besoin. Amen. D'abord, quel est ton besoin? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu cherches? Maintenant, la personne va te donner une réponse. Si cette réponse-là n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, t'accorder avec elle pour prier va te poser des problèmes. Est-ce que tu me suis? Tu ne peux pas t'accorder avec quelqu'un qui a un besoin qui est contraire à la volonté de Dieu. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, ne vous empressez pas d'imposer les mains aux gens, de peur de participer à leur péché. Pourquoi? Parce que la prière de foi, on va le lire tout à l'heure, fait appel aussi à l'imposition des mains et à l'onction d'huile. C'est pour ça que dans le ministère, lorsque tu pries pour quelqu'un, lorsque tu veux faire par exemple une prière de foi, il expose le besoin, ton discernement te dit que c'est la volonté de Dieu, que Dieu va agir dans cette situation, tu peux lui imposer les mains. Comme tu peux faire aussi une onction d'huile. Comme vous pouvez vous accorder, c'est-à-dire tu prends ses mains et puis tous les deux vous priez ensemble. Ça c'est la prière de foi. Et encore une fois, si la même personne revient encore le lendemain pour dire « Ah, homme de Dieu, tu peux prier encore ?» Ensuite, il revient encore. Tu peux prier encore. Tu peux. C'est que, en fait, la personne, qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend de voir avant de croire. Et ça, c'est pas la prière de foi. Quand tu vas vers un homme de Dieu et que tu viens avec un sujet et que tu sais que c'est la volonté de Dieu que cela se fasse dans ta vie, une fois que vous avez prié, la seule chose que tu fais, tu te réjouis parce que tu attends l'exaucement de cette prière. Tu ne reviens pas 50 fois, 60 fois. Voir le même homme de Dieu. Ah, c'est pour lequel on a prié hier là. Je n'ai encore rien vu, hein. Est-ce qu'on peut prier encore? C'est pas le comportement de quelqu'un qui manifeste de la foi. Amen. On peut lire encore Jacques chapitre 5, verset 14 à 15. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Donc, il faut que la personne en ait besoin. D'abord, il faut que ce soit un besoin. Il faut que ce soit en accord avec la parole de Dieu. C'est qu'est-ce que la parole de Dieu veut? Que nous soyons en bonne santé. Qu'est-ce que la parole de Dieu veut? Que nous portions du fruit. Qu'est-ce que la parole de Dieu veut? Tu vois? Donc, déjà, c'est en accord avec la parole de Dieu. Maintenant, tu peux prier. Et une fois que vous avez prié, tout ce qui est à l'encontre de l'exaucement de cette prière-là se mettra en ordre pour que la prière puisse effectivement s'accomplir. Donc, il est question de continuer. En fait, la prière de foi n'est pas longue. Elle n'est pas longue dans la durée, dans le temps qu'on prend pour prier. Mais, elle dépend plus du comportement qu'on a après avoir prié que de la prière en elle-même. Quand tu fais une prière de foi, le plus important, c'est ce qui se passe en fait avant la prière et après la prière. Avant la prière dans le sens où tu cherches à savoir la volonté de Dieu et après la prière dans le sens où une fois que tu as fait ta prière, tu sais que cette prière-là est exaucée et que ce n'est qu'une question de temps pour que la matérialisation se fasse. On va se lever, on va prier le Seigneur. On va se lever, on va prier le Seigneur. Amen. L'Esprit peut nous pousser, là où notre foi également peut nous pousser. Nous sommes dans une situation, nous traversons un moment, on identifie la volonté de Dieu. Tout part de l'identification de la volonté de Dieu. On identifie la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans cette situation? Et lorsqu'on sait ce que Dieu veut faire dans cette situation, à ce moment-là, nous pratiquons la prière de foi. Comme je vous l'ai dit, elle est basée sur la volonté de Dieu. Elle est faite sans douter. Une fois qu'on l'a fait, on l'a fait ayant la conviction que ce qu'on demande, ça est accompli. Alléluia. On va prier le Seigneur. Tu vas élever la voix, tu vas prier ton Dieu ce soir. Tu vas lui dire de t'ouvrir à l'intelligence des choses spirituelles et de te permettre de pouvoir manifester une foi qui déplace les montagnes. Prie ton Dieu, prie ton Dieu. Prie ton Dieu, prie ton Dieu.
Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles.
Prie ton Dieu.
Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles.
Crie à ton Dieu. On va rester dans la présence de Dieu. Éternel Père, j'exalte ton nom ce soir, Seigneur. Et je bénis ton nom pour chaque personne dans ce lieu. Seigneur, tu veux te susciter une armée d'hommes et de femmes, de foi et de prière. D'hommes et de femmes, Seigneur mon Dieu, qui ne doutent pas, qui ne sont pas comme des flots poussés à gauche et à droite et qui ne marchent pas avec assurance, Seigneur. Mais éternel, mon Dieu, toutes ces choses se produisent dans nos vies parce que nous avons connu des échecs, parce que nous avons connu des désillusions. Parce que Seigneur mon Dieu, nous sommes attaqués de toutes parts. Nous avons besoin que tu agisses et que tu interviennes dans notre vie, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur mon Dieu, que tu opères une restauration dans notre vie, Seigneur. Nous avons besoin que tu agisses dans nos cœurs, Seigneur. Et tu crées en nous le bon vouloir et le faire. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous pardonnes nos iniquités, nos péchés, nos fautes, nos transgressions, Seigneur. Que tu nous donnes la force de pardonner à ceux qui nous ont offensés, Seigneur. Que tu nous donnes la capacité de pouvoir nous développer, de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir grandir spirituellement, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Viens, Seigneur, et glorifie ton nom dans nos vies. Viens, Seigneur, et agis puissamment dans nos cœurs. Apporte la guérison. Apporte la guérison. Que tous les flots de doute, d'incrédulité, soient dissipés dans ce lieu au nom de Jésus. My God. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, de marcher avec plus d'assurance et plus de foi. Père, je te demande, au nom de Jésus, de faire de cette assemblée une armée puissante et glorieuse. de faire de cette assemblée une armée conquérante et forte, de donner à cette assemblée le discernement, la foi, l'onction et la puissance, afin qu'elle accomplisse des choses extraordinaires pour ta gloire. Seigneur, que ton nom soit béni pour ce que tu accomplis dans nos vies. Que ton nom soit béni pour ce que tu accomplis dans nos vies, Seigneur. Que ton nom soit béni pour ce que tu accomplis dans nos vies, Seigneur. Que ton nom soit béni pour ce que tu accomplis dans nos vies. Que ton nom soit béni pour ce que tu accomplis dans nos vies en ce moment-là même, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour ce que tu accomplis dans nos vies. Actuellement même, au moment où je parle, il y a quelqu'un qui est en train de voir son sang complètement nettoyé, purifié par la puissance de Dieu. Une autre personne qui est dans cette salle reçoit la guérison au niveau de son estomac. Au niveau de son estomac. Tu reçois ta guérison maintenant. Tu es là, tu es dans cette salle. Le Seigneur te libère de ton mal au niveau de ton estomac. Un ulcère qui te fatigue depuis des jours. Tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Une autre personne également qui est dans cette salle, qui est tourmentée par un esprit de lourdeur. Ta vie de prière avait complètement disparu. Ta vie de prière avait complètement disparu. Ta vie de prière, même ta foi, ton engagement, toutes ces choses avaient complètement disparu. Merci Seigneur mon Dieu, parce que tu la visites maintenant Seigneur, et tu apportes la restauration dans son cœur, dans son corps, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une autre personne qui avait complètement refroidi spirituellement, tu avais complètement refroidi. La foi que tu manifestes maintenant n'est rien par rapport à celle que tu avais lorsque tu t'es converti. Merci Seigneur mon Dieu, parce que tu l'as béni au nom de Jésus. Et tu apportes la libération dans son corps. Au nom de Jésus. Que toutes les actions de l'ennemi contre son évolution, toutes les actions, parce qu'il a volé ta foi pour t'empêcher de recevoir ta guérison. Il a attaqué ta foi pour t'empêcher de recevoir ta guérison. Et aujourd'hui, tu n'as pas le droit de rester et d'accepter cet état. Dieu a besoin de toi. Il veut t'utiliser. Et cette foi-là, le Seigneur la restaure maintenant dans ton corps. Parce que ce cancer n'aura pas la victoire, n'aura pas la victoire sur toi. Mais Jésus a la victoire sur ce cancer au nom de Jésus. Tu lâches ta vie et tu ne te manifesteras plus jamais dans son corps. Je décrète et je proclame la guérison parfaite dans le corps de cette servante de Dieu, de cette femme de prière qui doit encore servir l'Éternel des armées. Le Seigneur fait grâce aujourd'hui à toutes les personnes qui ont des situations au niveau de leur estomac, de leur ventre, de leurs intestins. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi. C'est ce que Dieu veut guérir aujourd'hui. Mets ta main sur ton ventre là aujourd'hui. Si tu as un problème, même que ce soit même un problème de digestion, tu as un problème au niveau de ton estomac, un problème au niveau de ton ventre, de tes intestins, de ton ventre. Au nom de Jésus, mets ta main sur ton ventre. Merci Seigneur, je bénis ton nom Seigneur. Parce que ta volonté aujourd'hui est de guérir toutes les personnes qui ont des troubles digestifs, qui ont des problèmes d'intestin, qui ont des problèmes de digestion, qui ont des problèmes d'estomac Seigneur. Quelle que soit la maladie dans ce ventre là, j'ordonne à ce mal de partir de ton corps au nom de Jésus. Même si ce sont des kystes, même si ce sont des boules, même si ce sont des anomalies, ces choses-là vont disparaître maintenant au nom de Jésus, parce que le Seigneur les sèche maintenant.
Libère ton peuple, Seigneur. Bénis ton peuple afin qu'il croie, Seigneur. Afin qu'il croie, Seigneur. Tu as dit que jusqu'à présent, vous n'avez rien reçu parce que vous n'avez rien demandé. Demandez à mon Père en mon nom afin que votre joie soit parfaite. Seigneur mon Dieu, ces personnes reçoivent maintenant la guérison au nom de Jésus. 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 Il agit, il agit, il agit. Il agit. Le feu du Saint-Esprit vient se localiser dans ton ventre maintenant. Le feu du Saint-Esprit vient se localiser dans ton ventre maintenant. Maintenant. Maintenant, maintenant. Maintenant. Il met toutes choses en ordre maintenant. Toute anomalie est guérie dans le nom puissant de Jésus. Toutes les œuvres de l'ennemi sont détruites.
Enseignement.com.
Enseignement.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignement.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignement.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.